Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
Bonjour, coucou, nous revoilà. En cette année 2025, l'Université de Nantes fête ses 50 ans. L'atelier Nouvelle a repris le 29 septembre sous la houlette de Sylvie Bauget. Beaucoup de visages déjà connus et en guise de présentation, un exercice traditionnel de 20-25 minutes inspiré par Edward Hubay, écrivain et essayiste doublé d'un militant écologiste radical. Auteur du Gang de la clé à molette où il dénonce le monde industriel où quatre fous furieux, c'est pas nous on vous le jure, pratiquent le sabotage. Libre inspiration, large variation autour de ce thème et quelques consignes, des mots imposés. Clé à molette, ouest, fleuve, béton, immonde, barrage, bière, désert. Clé à molette, ouest, fleuve, béton, immonde, barrage, bière, désert. Cerise sur le gâteau, nous allons programmer dans cette émission des musiques sorties en 1975, année de naissance de l'université, et riche dans le domaine musical. Allez, allez, on vous écoute.
La rentrée. En ce lundi matin, le soleil fait miroiter le fleuve royal. Je regrette de ne pas avoir de lunettes noires. La lumière que je reçois en pleine tronche me donne mal au crâne, à moins que ce ne soit la troisième bière de mon petit-déj. J'ai pris l'habitude de me poser le matin au bout du large pont en béton qui enjambe la Loire, au moins quand il ne pleut pas. C'est une façon de fuir le squat immonde dans lequel je crèche la nuit. Quoique, question immondice, ici aussi ça craint un peu. Je regarde l'eau fuir vers l'ouest, c'est peut-être ça que je devrais faire. Il est encore tôt, derrière moi l'esplanade des chantiers est vide, un vrai désert, parfois traversé par un vélo ou une trottinette roulant à fond. J'aime bien le pont Anne de Bretagne, c'est le lieu de plein de rencontres, de jeunes et de moins jeunes, étudiants de tous les âges en quête de savoir, en route vers l'université. C'est un lieu artistique aussi. J'ai un pote qui a graffé une gigantesque clé à molette rouge au milieu de la balustrade, rapport aux longues années de travaux que l'endroit connaît. Sur la chaussée du pont, tout un ensemble de plots forment des barrages multiples qui empêchent les gens de s'y promener facilement. Ça y est, c'est l'heure. La foule le traverse maintenant en masse compacte. Le tram vient de livrer sa cargaison à l'arrêt tout proche de chantier naval. Tiens, en voilà quatre qui s'arrêtent au milieu du flux. Ils viennent de s'apercevoir les uns les autres et se rapprochent. « Salut Henri, » dit Roselyne. « Bonjour Françoise, » dit Dominique. « C'est drôle, on dirait la rentrée des classes. » Ils en ont de la chance. Pour eux, c'est une nouvelle aventure à vivre et à écrire. Ça me dirait bien d'en faire partie. So you think you could
tell. Nous écoutons actuellement « Wish You Were Here » dédié à Syl Barrett, le créateur fondateur des Pink Floyd.
À l'ouest. Décidément, ils sont vraiment à l'ouest, les copains. Comme chaque vendredi soir, après le travail, nous sommes réunis autour d'une bière dans ce bar un peu vieillot. c'est ce côté vieillot que nous aimons. Il a conservé son style du début des années 80. 45 ans, Crémont, le patron du bar, est derrière le comptoir. Comme chaque vendredi soir, Raymond s'est installé à notre table et nous raconte la même histoire, celle de son bar, de sa clientèle nombreuse à l'époque des années 80, lorsque la salle était pleine et enfumée. Il n'arrêtait pas de courir, apporter les pastis ou les martinis. Sa clientèle était jeune et lui avait 25 ans. Une belle affaire que ce bar. Ah, sa voix s'étrangle lorsqu'il explique la construction du barrage, cet immonde ouvrage de béton, les maisons noyées, le clocher de l'église disparu et son bar désert de tout client. Son bar, situé au bout de la grande rue, en hauteur, juste à la limite du bord du barrage. Un village a été reconstruit sur l'autre rive du fleuve, les habitants dédommagés par une maison neuve. Mais ils ne viennent plus chez Raymond. Trop loin. Désormais, nous sommes souvent les seuls clients. Pierrot, Jaco, Pablo et moi, Ramos. Mais ce soir, Jaco veut rendre justice à Raymond et faire sauter le barrage. Il parle beaucoup, Jaco, surtout après plusieurs bières. Il sait convaincre Pablo et Pierrot, surtout après plusieurs bières. Moi, je ne veux pas suivre. Moi, je ne bois que de l'eau. Minuit. Mes trois amis enfilent leur cagoule et partent chacun avec une clé à molette desserrée des boulons aperçus sur le bas du barrage. Complètement à l'ouest, les copains.
Aventura 4. Deuxième version. File-moi une bière. Peux pas, j'ai les mains à l'arrache avec ces conneries. Demande à Porthos. Porthos ? Depuis qu'il s'est fait repérer par les flics dans ce barrage, il est complètement à l'ouest. Heureusement qu'il s'est élargi vite fait. Quelle idée aussi de vouloir franchir le fleuve en pleine nuit. C'était désert et il s'est fait repérer. Sa bécane toute neuve a sacrément morflé. Faut dire aussi que se scratcher sur le béton, c'est genre grave de chez grave, en mode casse-gueule. Tu l'as dit à Aramis ? Certainement pas. Ça serait carrément immonde de chez immonde de cafeter en trahissant les copains. Allez, bouge pas. Je te la porte, ta bière. Ramène-moi la clé 12 en même temps, et la clé à molette si tu la trouves. Putain, je vais me faire massacrer si j'ai pas réparé la bécane avant que le chef débarque. Ben tiens, quand on parle du loup, le voilà. Salut D'Artagnan. Salut les mecs. On n'a pas eu de pause ce coup-ci, mais heureusement personne ne s'est fait piéger par les keufs. On va se refaire vite fait. J'ai un plan. Le Crédit Lyonnais. Celui qui est sur la place Beauvau. Ça vous kiffe ?
Quatre touristes en Amazonie. Récit de René au policier brésilien. Je suis René, le seul survivant de cette tragédie. Edmond, Charles, Pierre et moi, nous nous connaissions depuis nos années de lycée. Au printemps 2020, nous avons décidé de faire un petit circuit en forêt amazonienne. L'année précédente, notre voyage dans le désert tunisien s'était déroulé à la perfection. Nous avons donc tenté une nouvelle aventure qui tourna, hélas, au désastre. Le programme n'était pas très long. Quelques jours de croisière sur le fleuve Rio Negro, puis une incursion dans la forêt tropicale pour observer des piranhas, voir des alligators et une ou deux tribus indigènes. Et en arrivant dans la ville de Manaus, il y a 8 jours, nous avons contacté un guide sur place. Ce guide nous avait donné rendez-vous dans un bar autour d'un verre de bière. Charles connaissait quelques mots de portugais. Il avait expliqué au guide le circuit envisagé par nous quatre. Cet homme, Pedro, semblait sérieux malgré sa barbe de 8 jours et son air renfrogné. Il nous proposa un tarif très avantageux, moitié moins que celui d'une agence de tourisme officielle. Nous étions tous heureux et avons sorti sur le champ une liasse de billets pour payer en liquide. L'affaire fut rondement menée. Le lendemain, le rendez-vous était fixé à l'ouest du port, sur un bateau, appelé Dona Flor. Pedro nous attendait près d'un petit rafio vert, comportant une minuscule cabine et un toit pour nous protéger du soleil. Il était accompagné d'un homme souriant, au visage basané, appelé Marco. Nous grimpâmes donc, confiants, dans cette embarcation, tous enivrés d'un parfum d'aventure, retrouvant l'insouciance de nos jeunes années. Il était déjà très tard quand nous aperçûmes les contours obscurs de cette forêt immense. Le repas fut très sommaire, un petit casse-croûte tellement pimenté qu'il fallait avoir l'estomac en béton pour pouvoir le manger en entier. Cette nuit-là, nous avons eu du mal à trouver le sommeil, légèrement angoissés par la cacophonie bruyante des oiseaux tropicaux. Et lorsque le soleil se leva, Pierre n'était plus à bord. Son sac à dos avait lui aussi disparu. Pedro et Marco n'étaient plus non plus à bord, et le moteur semblait en panne. Notre argent était lui aussi introuvable, ainsi que nos passeports et notre téléphone portable. Nous étions hélas bien isolés au sein de cette forêt immense, mais il fallait avant tout réparer le moteur du bateau. Par chance, une clé à molette traînait dans un coin. Edmond se pencha, essuya la clé avec un vieux chiffon. Il tremblait et hurlait. « C'est le sang de Pierre ! C'est le sang de Pierre ! Oh, ces deux hommes sont immondes ! Ils s'en prennent aux touristes ! Ils ont tué Pierre avant de prendre la fuite sur un autre bateau avec des complices ! » Hors de lui, il se pencha fébrilement vers le moteur, tenant la clé à la main. Mais malheureusement, il dérapa dans une flaque d'huile et tomba à l'eau sur un banc de piranhas affamés. Il n'eut même pas le temps de crier. Il avait déjà disparu sous nos yeux horrifiés. Quelques morceaux sanglants flottaient à la surface. C'est tout ce qu'il restait de lui. Charles et moi, nous nous sentions bien impuissants devant le déroulement de ces événements. Le bateau dérivait lentement sur l'eau du fleuve. Soudain, il sembla prendre de la vitesse. L'embarcation alla tellement vite qu'elle se retourna et se fracassa sur des rochers en bas d'un barrage, au milieu des éclaboussures. Je fus vraisemblablement éjectée de l'embarcation, car c'est ainsi que des indigènes me retrouvèrent, inconscient, sur les berges du fleuve. Quant à Charles, il fut sans doute dévoré par les crocodiles, puisqu'on ne retrouvera que son chapeau.
Après les Pink Floyd et David Bowie, nous vous proposons un autre londonien, Murray Head.
Les contes de la clé à molette. Chapitre 1. Les destins parallèles. Dolly est une très belle dame, légèrement plantureuse, certes. On peut dire que les formes l'avantagent, ses perruques blondes, ses tenues clinquantes, son visage avenant souligné de rouge et de noir. Dolly est une dame qui ne passe pas inaperçue. Kenny est un homme dans la fleur de l'âge, plutôt grand, la démarche tranquille, le cheveu noir savamment gominé, son léger embonpoint reflète un standing certain. Kenny navigue entre ombre et lumière selon les orientations que l'on donne au projecteur. Quand les premiers accents de la nuit grignotent les dernières lueurs du jour, Dolly entraîne Bimbo, son chien fantasque, vers les berges du fleuve. Quand les premiers rayons du soleil fardent les horizons de pourpre, Kenny offre une promenade à Safran, chienne des montagnes débercondée par la rue. Tous les deux jouissent alors du silence qui règne sur une ville endormie. Logiquement, rien ne permettrait une rencontre, ne serait-ce qu'un petit bonjour entre ces quatre personnages. Un canyon entre deux rives s'intercale entre ces deux appétits de vie. Les facéties du calendrier lunaire dénient tout accord entre la lune et le soleil. Le chouka peut égratigner la ville de béton, le crapaud peut déchirer les murmures sur le fleuve, les voies parallèles ne se croisent jamais. Dolly avance, quiète, s'amusant des gambades de Bimbo. Kenny, lui, évite les endroits immondes des ruelles sombres, sachant les rages de Safran sur tout ce qui bouge aux allures de chat noir. Soudain, un grand chamboultou percute les astres, les êtres et l'ordre du monde. Qui plus est, un jour opaque de brouillard, la ville se trouve baignée de lueurs étranges. La tombée du jour se mêle aux franges de la nuit et les individus ne savent plus sur quel pied danser. Le moment de la promenade se trouve chagriné. Sortir, rentrer, dedans, dehors, le trottoir, les ardes, les rives de l'épopée. Dolly trébuche sur le pavé du quai tant il est devenu sournois et quête une voie loin des chantages du fleuve. Kenny, pris dans un enchaînement de rôles, confond la gauche et la droite et le prochain carrefour lui est une énigme. Dolly et Kenny se retrouvent en dehors de tout repère, une page blanche où tout est à écrire. Ils marchent, l'un et l'autre à la croisée des chemins en quête d'une solution aux ébauches de leur état d'âme. Un constat. Dans le trouble du moment, Dolly ne sait pas que Bimbo n'est plus sur ses pas. Au même instant, Kenny avance la tête en dedans. Le monde lui échappe. Safran, indifférent aux orgies de la ville, s'enivre des parfums qui pigmentent le bitume. Et sans tambour ni trompette, Safran rencontre Bimbo. Bimbo séduit Safran, nez à nez, nez à cul, entre course et pause, entre frottement et caresse, entre jeu et gavotte endiablée. Deux personnages dans une folle épopée, l'écume de bonheur aux lèvres, une fine alliance, une liberté des corps partagés. Et puis, il est écrit que toute histoire se conclut d'un point final. Bimbo retrouve le pas de Kenny, Safran se fond dans l'ombre de Dolly. Le brouillard s'est dissipé, la lumière inonde la cité, Zeus, le cheval olympique, profitant d'un jour de liesse, poursuit sa course vers le pont Mirabeau, la lune et les étoiles s'éteignent en coulisses. Une porte encore close, Kenny s'étonne des lumières dans les yeux de Safran. Dolly, attentive au prélude d'un éveil sur la ville, reste étrangère au doux calme de Bimbo. La vie va quand se croisent les destins parallèles, chantait le poète.
Il y a 50 ans. Année 1975. Rendez-vous au troquet. Quatre gaillards de 20 ans en quête d'aventure. Phil, Bob, JC et moi. Suite à un lancer de fléchettes sur la carte de l'Europe, le sort a décidé d'aller nous faire faire un tour en Allemagne, près de la frontière danoise. Terre inconnue, mais vraiment inconnue. Quatre garçons de l'Ouest. De Brest, on ne peut guère faire mieux. Expression « être à l'Ouest » n'existait pas encore, mais elle aurait pu servir dans notre cas. Mal réveillé, mal de tête dû à la soirée d'hier, pas de discours fleuve, ce qui est décidé, on y va. Départ en 404 bleu ciel, la classe, ou presque, quelques centaines de mètres et nous voilà à pousser sur la bagnole. Panne, panne, ça râle. On enrage contre Phil, le conducteur, qui n'a pas fait attention à sa caisse la veille au soir. Un conseil, ne jamais perdre de vue le fil conducteur de son histoire. « Passe-moi la clé à molette », me dit Bob. Bizarre, bizarre. Je ne lui connaissais pas des qualités de mécano. J'y sais non plus, visiblement, et lui assène un laisse-béton. C'est une panne d'essence. Une panne d'essence quand on a 20 ans. Immonde, une panne d'essence si près de chez nous. Immonde, en poussant, nous essayons au mieux de nous cacher, tête basse sous nos capuches, surtout ne pas être reconnus des gars du quartier et encore moins des filles. Sinon, ça va chambrer sévère. Remarque, vaut mieux une mise en boîte qu'une mise en bière. On arrive à la station-service. Phil, ce soir, tu seras privé de désert. Ah bon ? Je ne savais pas que nous devions traverser un désert pour aller en Allemagne. Oh, c'est pas gagné.
Nous avons écouté les textes de Elisabeth, Yves, Bernard, Marie-Martine, Michel, Philippe, dit par eux-mêmes. Le texte de Marie-Martine a été lu par Anaïk Frappard.
Et pour conclure, le boss, Bruce Springsteen, Born to Run. Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couat, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.